Vivre loin des hommes plutôt que de perdre son temps à les changer. Deux féministes viennent de relancer la guerre des sexes. Deux pamphlets qui revendiquent la misandrie, la détestation des hommes.
On n'est même pas en train de répondre avec leurs armes à eux, à la mesure du massacre qu'ils commettent tous les jours. Pas du tout. On essaie juste de le dire et rien que ça, de l'énoncer, ça pose un problème.
Et dans la rue aujourd'hui, les jeunes militantes sont de plus en plus virulentes. Au fil des slogans entendus dans différentes manifestations, le combat contre la domination masculine s'exprime de façon radicale. Ce nouveau féminisme embrasse aussi la cause antiraciste. Depuis les manifestations après la mort d'Adama Traoré et de l'Américain George Floyd, une France raciste est souvent dénoncée. Comme de l'autre côté de l'Atlantique, s'instaure même un débat sur le privilège blanc.
Dans la société, selon votre couleur de peau, vous ne vivez pas la société de la même façon. Comme beaucoup d'hommes ne comprennent pas que l'espace public n'est pas vécu de la même façon si vous êtes un homme ou une femme.
Alors peut-on essentialiser les individus en fonction de leur couleur et de leur sexe sans abandonner l'universalisme républicain? A l'inverse, nier l'origine et le genre, est-ce vivre dans l'aveuglement? Si vous êtes homme et blanc, avez-vous forcément des comptes à rendre?
Mal.
Le fait d'un homme, là, le fait de parler sans arrêt de l'homme ou du mâle blanc, ne crée-t-il pas un risque de racialiser tous les débats auxquels il y a lieu? Comment recevez-vous le fait que tant d'hommes, en effet, soient heurtés quand ils sont désignés de cette manière-là, comme des mâles blancs de plus de 50 ans, comme des hommes blancs?
Alors, ça a l'air d'être très douloureux. L'homme au singulier, ni du mâle blanc, ce que je décris sont des réalités sociologiques, donc des groupes qui sont, pour des raisons historiques, exposés à un certain nombre de considérations, de traitements structurels, donc de discrimination. Et effectivement, je peux parler des hommes blancs au pluriel ou des personnes blanches, mais je ne désigne pas une personne individuelle. Et je trouve intéressant que des personnes se sentent individuellement visés, là où il s'agit de
blessés,
décrire.
Plus que visés, ils se sentent blessés.
Mais
par
je pense que les personnes les plus blessées ne sont pas blessées par des mots, mais par, si on parle du sexisme, par exemple, par des coups ou par des violences verbales qui sont autrement plus marquantes. Donc je crois qu'effectivement, il faut peut-être déplacer aussi le focus par rapport à l'attention sur les personnes qui sont potentiellement victimes d'oppression, de sexisme ou de racisme, par exemple.
Pascal Bruckner, lorsque vous avez été, traité sur une antenne de vieux mâle blanc. Mais... Vous avez ressenti une blessure
infidèle
narcissique
aussi. Ah bon ? Infidèle, puisque je ne suis pas croyant. Et que donc ça, c'est un grief supplémentaire. Mais d'abord, il y a un fait démographique. L'Europe est blanche majoritairement à 90-95%. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pourra changer dans les années à venir. Donc, effectivement, c'est un peu absurde de reprocher aux gens d'être ce qu'ils sont. Et vous l'avez dit dans votre présentation, on a l'impression qu'on accuse le mâle blanc, mais les femmes blanches elles-mêmes sont incriminées. Elles ne perdent rien pour attendre. On voit que des afro-féministes les précipitent dans le même chaudron que le mâle blanc. Et au fond, on est condamné simplement pour le fait d'être né, non pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Et ça, c'est le grand problème de l'antiracisme actuel, qui, à mon avis, est la plus grande supercherie qui existe, c'est qu'il retrouve tous les cadres de la pensée racialiste des années 30. Et ça me gêne un petit peu, quand même. Je trouve ça très douteux, quand même, ce que l'on est. La marchandise frauduleuse qu'on essaye de faire passer sous le titre d'antiracisme aujourd'hui.
Alors on va évoquer la nouvelle radicalité intersectionnelle avec un chiffre pour l'illustrer, le chiffre
oui,
du
un
jour,
pourcentage,
Vincent.
C'est 30% en 2024 parmi les critères pour être éligible comme meilleur film. L'Académie des Oscars demande donc que 30% du casting ou de l'équipe soit issu de groupes sous-représentés. Alors je ne vais pas vous détailler la charte parce qu'elle est assez compliquée, mais simplement vous dire quelles sont ces catégories sous-représentées. Les personnes provenant d'un groupe racial ou ethnique sous-représenté, les femmes, les LGBTQ+, et les personnes handicapées. Rokhaya Diallo, qu'est-ce que vous inspire cette charte diversitaire, le fait que l'art maintenant se définissent par l'origine de ceux qui le font.
Alors, plusieurs choses. Je suis très étonnée par l'absence de mesures de M. Bruckner qui compare l'antiracisme actuel aux années 30. Je rappelle que ce qui s'est passé dans les années 30 était le fait de structures qui disposaient du pouvoir, des logistiques d'État qui étaient à même d'opprimer des gens. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas de groupe minoritaire qui ait d'une part la volonté, qui soit en capacité d'opprimer massivement des hommes blancs. Et puis, quand on dit que vous êtes un homme blanc, ce n'est pas une accusation, c'est un fait.
Ah non,
moi, quand on me dit que je suis une...
très bien.
Vous avez dit on m'accuse d'être un mâle blanc. Moi, quand on me dit que je suis une femme noire, je ne me sens pas accusée. C'est un fait social.
Non, j'ai dit simplement que l'antiracisme.
Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Enfin, je sais que vous dénoncez dans votre livre l'inexistence du man-interrupting, mais là, vous venez d'en
parler. Le man-interrupting, c'est la contraction de man interrompt une femme.
Le fait qu'un. Tout le monde, non, parce que moi, je vous ai écouté
très
aimant.
Très bien.
Voilà. Et donc, pour répondre à vos questions, l'Académie des Oscars, c'est une entité privée et qui a le droit de dénoncer les critères selon lesquels elle décide que les films vont pouvoir concourir et être primés par elle. Si une entité décide qu'elle veut, à partir de 2021, faire en sorte de promouvoir un cinéma qui soit inclusif, c'est son droit. Après, quand on est producteur aux États-Unis, à Hollywood, on a tout à fait le droit de produire des films qui ne répondent pas à ces critères. Simplement, on aura moins de chances de remporter un Oscar. Mais ce n'est pas une interdiction de produire des films.
C'est une incitation.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une incitation qui existe aujourd'hui en France. Je pense par exemple que le collectif 50-50, qui est un collectif qui promeut la visibilité féminine dans le cinéma français, a mis en place un dispositif avec le CNC, le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée, qui bonifie les subventions des films qui font appel à 40%, me semble-t-il, de femmes à la réalisation, mais aussi à la technique. Et ça, c'est une incitation. Et je pense que c'est important.
Pascal Bruckner, sur cette politique.
Oui, c'est une incitation. Alors, pourquoi
est-ce pas si grave?
Est-ce si grave, mais est-ce si important, après tout? C'est-à-dire qu'au fond, dans le cinéma, ce qui compte, ça n'est pas la représentation proportionnelle, ce n'est pas le fait que chaque minorité, chaque catégorie soit représentée, c'est au contraire que les gens qui travaillent ensemble aient du talent. Et donc, est-ce que les films seront meilleurs lorsque tout le monde sera là sur le plateau, ou est-ce qu'au contraire, on ne risque pas de faire des films un peu consensuels? Regarde, je lis là une citation de Mazarine Pinjot, qui est parue dans Le Monde le 28 juillet. « Que deviendra l'art dans tout ça? Des œuvres théâtrales où l'on dira le catéchisme, le mal contre le bien, des tableaux respectant la parité, hommes-femmes, noirs-blancs, vieux-jeunes, handicapés dans des champs de blé bio et des plants de tomates en permaculture. » Voilà, alors ce contre quoi elle s'assure.
Elle caricature à dessein, oui. Mais elle caricature quand même.
Mazarine Pinjot, écrivaine, fille de François Mitterrand, je précise qui elle est.
Assez bien le climat de l'époque. Donc pourquoi pas, moi ça ne me dérange pas du tout. Mais est-ce que va devenir l'art dans tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Okay. Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde soit représenté, alors même que vous appartenez à une catégorie qui est surreprésentée. Mais c'est vrai que quand on... Pardonnez-moi, je suis en train de parler. Oui. Je vous remercie de me laisser terminer. Donc, vous avez eu la chance, contrairement à moi qui suis française et qui ai grandi en France comme vous, d'être exposée à un cinéma où vous existiez, où les gens qui étaient les protagonistes de films vous ressemblaient. Donc, c'est vrai qu'il me semble très facile pour quelqu'un comme vous de dire oui, on n'a pas besoin que tout le monde soit représenté. Moi, je pense, par exemple, aux enfants actuellement qui grandissent avec des images qui ne leur ressemblent pas et qui implicitement leur disent « Vous n'existez pas, votre existence sociale n'est pas valide. » Et après, je veux dire, je ne pense pas que ce soit les gens les plus compétents qui obtiennent les meilleurs financements en termes de films. Je pense qu'il y a des logiques de discrimination qui ne permettent pas, notamment aux femmes réalisatrices, de produire des récits. Donc, si on ouvre le cinéma français à des femmes, si on les ouvre à des minorités, je pense que le cinéma ne sera pas moins bon. Il sera simplement, il offrira une perspective plus large de ce qu'est la France actuelle.
Des manifestations d'hommes, donc la prophétie de Patrice Gélard, Pascal Bruckner, ne s'est pas réalisée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous cédez à une forme de panique sociale en disant que l'homme blanc est attaqué?
Alors moi, je ne cède à aucune panique parce que je sais, c'est pas l'homme blanc qui m'intéresse, c'est le rôle du bouc émissaire. Pourquoi un certain nombre de groupes, en France et ailleurs, ont-ils besoin de désigner une cible? À mon avis, c'est pour une raison simple, c'est que d'abord, si l'homme blanc est méchant, coupable, dominateur par nature, cela explique tous les malheurs du monde. Et le rôle d'un bouc émissaire, c'est évidemment de rassembler sur sa personne tout le négatif. Donc, l'homme blanc n'est pas menacé, puisqu'au contraire, le bouc émissaire est indispensable. Et d'ailleurs, très souvent, la haine de l'homme blanc se dégénère en haine des juifs, puisque le juif a aussi comme tort d'être blanc. Et donc, tout ça fait que je ne panique pas, je prends un point de vue et à partir de là, je ratisse large les néo-féministes, les antiracistes, les décoloniaux, et je vois comment à chaque fois, c'est un dispositif qui permet en quelque sorte de soulager la conscience. Quand on est antiraciste, on est obligé de se contenir en permanence, de ne pas dire du mal, des handicapés, de telle ou telle catégorie. L'homme blanc semble être la seule catégorie sur laquelle on puisse se lâcher, parce que pour l'instant, il y a peu de poursuites. On peut dire, comme Nick Conrad, par exemple, pendez les blancs. Vous savez, ce rappeur qui a été poursuivi par la LICRA.
Qui a été condamné.
Qui a été condamné. On peut dire comme Fritz Corleone qu'il faut faire venir Hitler et poursuivre l'œuvre de la Shoah.
Ce qui a déclenché une polémique. Rappeur, ce qui a déclenché une polémique.
Oui, enfin,
il n'y a pas eu d'indifférence. On ne peut pas dire que ses propos ont été tenus
de manière différente. Non, il l'a dit. Si j'avais dit ça, j'aurais été lynché. Mais enfin, bon, bref, toujours est-il qu'il y a là une sorte de zone de confort de l'antiracisme, d'un certain antiracisme, qui permet effectivement de s'exprimer dans les médias et ailleurs et de dire la haine que nous inspire l'homme blanc.
Alors moi, la seule personne qui me paraît obsédée par les hommes blancs, quand même, c'est vous. Vous n'avez cessé de répéter
le fait que...
Non, mais c'est aussi le propos de votre livre que j'ai lu. Vous parlez en fait d'une nature. Quand on décrit des phénomènes politiques, de rapports de domination, il ne s'agit pas d'une nature, mais d'une position qui est liée à une histoire. Donc la position des personnes blanches en France, la position des hommes en France aujourd'hui et dans le monde, est liée à une histoire. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à une nature ou à quelque chose de l'ordre génétique, mais à une position politique. Et c'est vrai que moi, je suis étonnée que vous puissiez penser qu'il s'agit de haine. Parce que quand vous parlez de haine, vous êtes dans quelque chose de moral. Là où on est simplement dans une analyse de rapport de force.
C'est ce que vous appelez, pardonnez-moi de vous couper, c'est ce que vous appelez politiquement le privilège blanc.
Enfin, le privilège blanc, le privilège masculin. En fait, l'idée, c'est un concept effectivement qui a été inventé par Peggy McIntosh, qui est une intellectuelle américaine. C'est simplement de dire que quand on est blanc, la couleur de sa peau n'est pas un obstacle. Si la question du privilège, je sais qu'en France, c'est sensible parce que c'est attaché à une histoire, notamment à l'abolition des privilèges. Donc évidemment, quand on parle de privilège en France, c'est un contexte particulier, donc on ne comprend pas forcément ce terme comme ça. Mais simplement, ce qui veut dire que quand on n'est pas blanc, en fait, on rencontre des obstacles du fait de sa couleur de peau.
C'est le fait, pour par exemple, pardon, de pouvoir marcher dans la rue quand on est un homme blanc sans avoir les mêmes risques que quand on est un homme noir, c'est aussi simple.
Que de ne pas avoir à y penser, c'est-à-dire que le fait d'être blanc aujourd'hui fait que quand vous cherchez un appartement, quand vous cherchez un logement, vous ne vous dites pas que c'est votre couleur de peau qui va vous empêcher d'y accéder. Et c'est simplement de se dire qu'on peut s'affranchir en fait de la réflexion sur les questions raciales, tout simplement parce que cette identité ne vous pèse pas et ne vous entrave pas dans votre évolution. De la même manière qu'il y a un privilège masculin, en tant que femme, on ne sort pas de chez soi à n'importe quelle heure de la journée pour se balader la nuit parce qu'on imagine que potentiellement on peut être agressé. Et les hommes se posent beaucoup moins ce genre de questions.
Pascal Bruckner, sur ce concept de
privilège. Oui, je suis d'accord. Donc il y a un privilège blanc, c'est-à-dire qu'au fond, le clochard blanc, l'agriculteur qui gagne des misères, c'est un privilégié par rapport à des gens qui viennent d'autres pays. Mais moi, je pense,
on
madame...
On peut ne pas être blanc et ne pas venir dans notre pays, pardon. Juste, il y a une confusion sur les deux. Il y a plein de non-blancs qui sont français.
Vous me l'avez dit, je vous le répète. Voilà. Moi, je pense, madame, qu'au contraire, votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégié. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses... qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense, à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo, et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie...
Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un ?
Oui, ce que vous avez dit, lorsque vous avez fait une pétition en 2011...
Ce n'était pas une pétition, c'était un texte. Et aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit.
Si, et je l'avais dit...
Je suis désolée, mais c'est scandaleux ce que vous dites, et c'est totalement irrespectueux.
Non, ce n'est pas du tout scandaleux ce que pensent tous les gens de Charlie Hebdo.
C'est ce que vous pensez, mais vous n'avez pas à m'accuser d'avoir entraîné la mort de
quiconque. Vous avez, avec d'autres... C'est à la haine contre Charlie Hebdo.
J'ai usé de ma liberté d'expression.
Armé le bras des tueurs.
J'ai usé de ma liberté.
C'est scandaleux. Ben vous l'avez fait. Les résultats.
Donc, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire?
Vous avez parfaitement le droit de vous exprimer. Je dis assumez la responsabilité de vos
actes. Je n'ai absolument aucune responsabilité dans aucun attentat terroriste.
Si on demandait aux gens de Charlie Hebdo de s'exprimer, vous verrez ce qu'ils pensent de vous.
Écoutez, moi je trouve que vos propos sont scandaleux et vraiment indignes de la personne que vous prétendez être. Je n'ai jamais fait de procès, je n'ai jamais
aucun.
Ce sont les indivisibles, c'est pas moi. Moi je suis une personnalité.
Par le biais de la personnalité.
Mais vous l'avez fondée.
Absolument, oui, mais je l'ai fondée en 2006. Le temps qui est passé entre le procès.
On va revenir, si vous le voulez bien.
Honnêtement, je trouve ça très grave ce que vous faites.
Ah ben écoutez,
c'est vous qui incitez à la haine.
Ah non, je n'incite pas à la haine, madame. Je vous mets en face de vos paroles.
Bah oui, mes paroles
ont entraîné des meurtres. C'est tout.
Mes paroles relèvent de ma liberté d'expression. Oui, donc si vous ne l'admettez pas,
la liberté entraîne
changez de pays, vivez en dictature.
Ah, vous voulez que je change de pays, mais excusez-moi, je reste encore un petit peu en France.
Laissez-moi m'exprimer alors.
Alors parlons des femmes, si vous voulez bien, avec les étudiantes. Nadia.
Avec une nouvelle donne...